Isabelle Bresse,
Sud Radio,
c'est vous,
c'est vous.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, donc nous parlons de vos enfants. Et plus précisément, nous allons parler éducation positive. Vous en avez peut-être entendu parler, car elle est en train de devenir incontournable. Tout le monde n'a plus que ça à la bouche. Elle semble couler de source et pourtant des livres, des blogs, des émissions entières lui sont consacrées. Cette éducation positive s'adresse à vous, parents qui ne savaient plus par quel bout prendre votre petit dernier qui repeint régulièrement le salon au feutre et le grand qui refuse tous les soirs d'aller prendre son bain sous prétexte qu'il s'est déjà lavé la veille. En théorie, l'éducation positive va donc vous apprendre à gérer vos émotions et à faire preuve d'une créativité sans limite pour faire passer le rangement de la chambre pour un super jeu ou encore à garder le sourire en toutes circonstances, même quand la directrice de l'école vous convoque parce que votre fils a coupé la queue de cheval de sa voisine de devant sous prétexte que ça l'empêchait de voir le tableau. Mais comment ça marche? Est-elle vraiment efficace? À qui s'adresse-t-elle? Et comment faire pour la mettre en pratique sans perdre son calme face à l'imagination débordante de nos chères têtes blondes? Eh bien, la réponse tout de suite dans cette émission avec des mamans à qui on aimerait vraiment ressembler.
Isabelle Bresse,
Sud Radio, c'est vous.
Et comme tous les mercredis, on parle de vos enfants et je vous le disais tout à l'heure, nous parlons dans cette première heure d'éducation positive. Nous sommes avec Charlotte Ducharme. Bonjour Charlotte, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle, merci beaucoup.
Vous êtes maman de deux enfants et puis vous êtes l'auteur du blog Cool Parents Make Happy Kids, dont on a mis le lien sur le Facebook de notre émission Sud Radio C'est Vous, qui est un blog qui parle justement de cette éducation positive.
Exactement, qui n'est pas tout. Facile à appliquer au quotidien.
On va en parler tout au long de cette émission. Nous sommes également avec Eve. Bonjour Eve, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour.
Vous êtes maman de trois enfants.
Oui.
Et l'éducation.
C'est un exploit dans votre bouche.
Mais parce que c'est un exploit. Bon, nous, on en a quatre à la maison, alors vous savez. Mais, mais trois, c'est déjà un exploit. Hein. C'est déjà super. Et donc, vous, l'éducation positive vous a aidé et vous allez nous expliquer de quelle façon ça vous a aidé dans un instant. Et nous sommes également avec Béatrice Camerer. Bonjour Béatrice, bienvenue sur Sud Radio.
Oui, bonjour Isabelle.
J'ai bien prononcé? On dit Camerer?
Absolument, oui, c'est très bien.
Super.
Pour une première
bon.
Fois, c'est très bien.
Bon, formidable, je tiens le bon bout alors. Et donc, vous êtes fondatrice des Vendredis Intello, vous avez un blog également, et vous allez participer à cette discussion en nous disant exactement ce que vous pensez de la psychologie positive. Vous n'êtes pas contre, parce qu'évidemment, comme vous le dites sur votre blog, être contre, c'est comme être contre l'amitié ou pour la guerre, quoi. Ça ne se fait pas, mais vous avez un avis sur la question, et on va en parler dans un instant. Mais la première des choses, Charlotte, c'est de définir ce qu'est l'éducation positive. C'est très compliqué, et d'ailleurs Béatrice le dit sur son blog, dans l'article qu'elle a écrit sur le sujet, c'est très compliqué de trouver une bonne définition de l'éducation positive. On a l'impression que c'est, il se passe n'importe quoi, il faut garder le sourire, être cool, être zen. C'est quoi l'éducation positive?
Absolument, c'est pas évident à définir parce qu'il y a plein de principes dans l'éducation positive. Mais si je pouvais en mettre quatre en avant, d'abord l'éducation positive, c'est de parler à son enfant comme on aimerait qu'il nous parle.
D'accord.
Et comme il va surtout apprendre par mimétisme, il va apprendre plus sur la forme que sur le fond, il faut le respecter comme on aimerait qu'il respecte les autres. Ensuite, un deuxième point fondamental de l'éducation positive, c'est de ne pas chercher à dominer son enfant, mais plutôt à l'influencer. Car pour que notre enfant donne le meilleur de lui-même, ça ne sert pas à grand-chose de le soumettre absolument, de vouloir qu'il obéisse absolument, mais plutôt d'avoir confiance en lui de façon à ce qu'il donne le meilleur de lui-même.
D'accord, mais il y a quand même des moments où il faut qu'il obéisse, parce qu'il peut se mettre en danger, par exemple.
Oui.
Quand on dit de ne pas toucher aux plaques chauffantes, au four, de ne pas sauter par la fenêtre, il faut qu'il le fasse.
Absolument, il faut qu'il le fasse. Mais ensuite, la façon pour l'amener à le faire va être différente de ce qu'on a l'habitude de le faire. Si tu ne fais pas, tu es puni. Ça ne marche pas forcément.
Ouais. Et ensuite, dans le train, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur des parents qui avaient un tout petit enfant qui devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Et ils ont passé le voyage à lui expliquer que s'il ne se tenait pas tranquille, le loup allait venir le manger.
Ah oui.
Je me suis dit que ce pauvre enfant enfant allait être traumatisé à vie.
Oui, bon courage pour les cauchemars ensuite. Ouais. Si on raconte des histoires qui font peur, ouais, on risque ensuite de devoir se réveiller plusieurs fois la nuit. Donc voilà, et puis le quatrième principe pour finir, que je mets très en avant dans mon blog, et qui est la signature d'ailleurs, Cool Parents Make Happy Kids, c'est que justement, pour avoir des enfants heureux, il faut l'être avant tout, et il faut penser aussi à son bien-être, car ça va être très compliqué si on n'est pas bien de savoir gérer ses enfants et de les gérer justement avec humour et positivisme. Les jours où on est stressé, c'est moins facile.
Voilà. Bien sûr. Alors, Béatrice Kammerer, qui est donc fondatrice des Vendredis Intello, bonjour, rebonjour Béatrice. Les Vendredis Intello, déjà, c'est quoi ? Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste.
Alors, les Vendredis Intello, c'est un blog participatif, donc en fait, qui est ouvert à tous, de partage, de lecture dans les domaines de la parentalité et de l'éducation. En fait, moi, je l'ai créé, je suis diplômée en sciences de l'éducation et je me suis interrogée sur la façon dont on pouvait aider les parents à s'approprier des contenus issus de la recherche, mais pas que, enfin, des savoirs en éducation et en parentalité. Et en fait, on a voulu proposer cet espace dans lequel la seule règle, c'est que pour aborder le thème, on doit citer une source. Donc, peu importe, on a le droit de parler caca, pipi, vomi, mais on doit se référer à une source. Donc, voilà, c'est comme ça qu'est né l'espace collaboratif des Vendredis Intello, sur lequel on parle absolument de tout.
Ça voilà. Fait penser un petit peu au café philo.
Ouais, c'est un peu l'idée. C'est l'idée de dire que c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on a perdu ses neurones, qu'on a tous un cerveau, on est tous capables de.
Ça dépend
de penser,
des jours.
De confronter.
Hein. Ouais, ça dépend fois, des jours, Béatrice.
On a des trucs plus light. Mais voilà, c'est l'idée de dire que d'abord, on s'engueule pas les uns avec les autres. On discute sur des sources, donc on peut pas être d'accord avec le propos qui a été publié dans le dernier 20 minutes ou le dernier Family. Mais bon, au moins, on dit pourquoi. Donc, c'est aussi une façon de mettre un peu de distance entre les gens, puis de co-construire les idées, les réflexions dans des domaines qui nous tiennent à cœur.
Alors, vous ne vous revendiquez pas de l'éducation positive, hein. Vous avez, je vous ai invité parce que vous avez écrit un article qui était très bien fourni et fouillé, cherché et écrit, très drôle, sur le sujet. Et dans cet article, vous expliquez qu'en fait, c'est compliqué. C'est vrai qu'en théorie, c'est ce que je disais tout à l'heure en plaisantant, et vous l'écrivez effectivement avec beaucoup d'humour, on ne peut pas être contre l'éducation positive, c'est sûr. On va pas dire que c'est pas bien de rester cool, de rester calme face à ses enfants, etc. Et puis après, vous dites aussi que c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sort de ses gonds. Et peut-être ce qui vous gêne un peu, c'est le côté un peu culpabilisant pour les enfants. Et pour les parents.
Alors moi, ce qui m'interroge pour les parents, beaucoup dans l'éducation positive, alors c'est un terme qui est très large, c'est qu'on vit dans une société où les parents ont des pressions qui sont très très importantes sur le dos. Il faut être un super parent tout le temps, il faut réussir à concilier sa vie perso, sa vie pro, être disponible, être enthousiaste, avoir des bonnes idées, il faut même être heureux. Enfin bon, c'est énorme, hein, ce qu'on demande aux parents et ce qu'on se dit, oui, il faut tout ça pour que l'enfant soit bien. Et moi, ce qui me pose problème dans l'éducation positive, c'est pas la pensée, parce que pour moi, c'est une pensée philosophique qui est très riche, qui est issu des grands mouvements pour la non-violence, enfin c'est des choses qui sont extrêmement nourries, extrêmement riches, et c'est la façon dont elle va être apportée aux parents, et c'est la façon dont elle va diffuser dans les milieux des parents. Et moi je trouve qu'il y a par exemple des groupes de discussion autour de l'éducation positive qui sont d'une violence absolument hallucinante, des articles, des écrits autour de l'éducation positive qui en fait on a l'impression que les parents veulent être bienveillants avec leurs enfants mais oublient de s'inclure dans cette bienveillance. Et donc voilà, moi j'ai vraiment un point d'interrogation là-dessus parce que je me dis que si on se donne cet objectif de vivre dans une société plus douce pour chacun, faut pas oublier les parents dans l'histoire et encore plus peut-être dans la société dans laquelle on vit où le surmenage parental c'est quand même un fléau qu'on connaît très bien.
Ça c'est clair.
Et voilà.
C'est vrai, Charlotte. Alors, d'où vous est venue cette idée, justement, de vous lancer dans l'éducation positive ? Comment vous l'avez découverte et comment vous avez commencé à la mettre en pratique ?
Donc, en fait, j'ai commencé dès le début inconsciemment à la mettre en pratique. Et puis, je me suis intéressée à 2-3 lectures et à chaque fois...
Excusez-moi, ils ont quel âge, vos enfants, déjà ?
Ils ont 3 et 18 mois.
Tout à coup, le trou. Oh, il a quel âge, le petit dernier ? Donc, 3 ans et 18 mois, oui.
Donc, voilà, ils sont encore petits, mais c'est vrai que 3 ans, c'est aussi l'âge des colères, etc., qui ne sont pas toujours faciles à gérer pour les parents. Et donc, j'ai commencé à lire quelques bouquins et à chaque fois, je me retrouvais dans ses propos. J'ai l'impression qu'on m'avait volé mes convictions. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire un blog ? Parce que c'est quand même très... C'est pas facile quand on lit des livres qui sont souvent très bien faits, mais la vie de tous les jours, elle n'est pas toujours rose, elle n'est pas toujours facile. Et justement, avec les couacs de la vie de tous les jours, avec... notre stress qu'on peut avoir, comment appliquer cette éducation positive.
Mais alors, vous mettez jamais en colère ?
Je me mets rarement en colère, mais je ne dis pas que c'est mal de se mettre en colère. Bien sûr, de temps en temps, voilà, l'enfant peut aussi comprendre qu'il a poussé son parent à bout et que que c'est le résultat naturel de ce qui s'est passé. Mais justement, quand on se met en colère, par exemple, ça m'est arrivé un jour où je commençais à perdre patience. J'avais passé tout le week-end avec les enfants, mon mari n'était pas là, il pleuvait, enfin, c'était l'accumulation. On était restés dans l'appartement et le dimanche soir, j'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Bon, les enfants étaient au summum de la joie, ça sautait partout, ils arrivaient pas à se mettre en pyjama, j'en pouvais plus. Ben là, au lieu de leur crier dessus en disant vous en faites qu'à votre tête, vous êtes méchant ou je sais pas quoi, vous pouvez pas vous tenir en place, c'est d'exprimer ses sentiments. J'en peux plus, je suis à bout, papa est pas là, je me suis occupée de vous tout le week-end, j'en peux plus, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, je dis pas que ça marche toujours, mais ce jour-là, par exemple, ça a marché.
Ouais.
Voilà. On le parle fermement, mais plus de ses sentiments pour pas l'écraser au fur et à mesure. Et on a droit d'être à bout. Ouais.
Béatrice, vous le dites dans votre article qu'effectivement, la psychologie positive, c'est un mélange de plein de choses. Là, notamment le fait d'exprimer ses sentiments pour être compris par l'autre, etc. C'est typiquement de la communication non violente. Donc, effectivement, c'est un mélange de beaucoup de choses, la psychologie positive.
Oui, oui, absolument. Mais je pense aussi c'est que c'est ce qui en fait sa richesse, parce qu'il y a, il y a des influences philosophiques, il y a l'influence de la communication non violente de Marshall Rosenberg, et puis après il y a les thérapeutes qui l'ont incarné, qui l'ont repris, qui l'ont adapté plus spécifiquement aux relations parents-enfants. Et puis il y a tout ce qui nous vient des neurosciences maintenant, qui s'est aussi greffé dessus, qui sert de support aussi à ces thèses-là. Moi, je vois ça comme un ensemble riche dans lequel on peut piocher, dans lequel on peut glaner des idées. Là, tout à l'heure, vous disiez justement de la façon de gérer la colère. De dire est-ce que ça veut dire qu'un parent n'a pas le droit de se mettre en colère, dire on peut développer des outils pour dire les choses, y compris les choses pénibles, la colère, le ras-le-bol, sans violence autour de soi. Moi je trouve que c'est un outil de vie en société qui est très riche. Après voilà, il y a plein de façons qu'il a pu se diffuser. À titre personnel, je soutiens pas du tout le tout ce qui est neuro sciences, parce que je trouve que c'est une vision qui est très réductrice de la pensée de l'éducation positive, et je me mets un petit peu en garde parce que derrière il y a des contenus scientifiques dont il faut pouvoir discuter la validité, mais en tout cas l'idéal philosophique est très beau.
Vous avez des enfants vous-même, Béatrice ?
Ah oui, j'ai 5 enfants.
Oui. Oh, record battu. Donc nous avons Charlotte 2 enfants, Eve 3 enfants, moi 4 et vous 5. Écoutez, je pense que
on est une belle équipe.
Une belle équipe à nous toutes, on a beaucoup d'enfants. Et donc ils ont quel âge vos enfants, Béatrice?
Le plus petit a 3 ans, le plus grand a 13 ans. Donc c'est vrai qu'en termes de communication, on a des choses assez variées à la maison.
Ouais. Et comment vous faites avec eux alors, avec toute cette grande famille à la maison? J'imagine que ça doit être compliqué de garder son calme en toutes circonstances.
Oui, c'est difficile. Oui, bah comme tout le monde. Hein, voilà, je pense qu'il y a des moments. Mais voilà, prendre considération de ses propres limites en tant que parent. Dire là, moi je le sens, je suis fatiguée, je suis au bout de ce que je suis capable de donner. En fait, je peux plus rien donner de bon parce que j'ai pas dormi, j'ai pas assez mangé, j'ai pas été faire pipi de la journée. J'ai ajourné tous mes loisirs. Ça fait 2 ans que j'ajourne tous mes loisirs. Et à un moment donné, ça va pas. Et c'est vrai que moi, en fait, ce qui me dérange dans l'éducation, enfin, dans l'éducation positive telle qu'elle est présentée, hein, pas dans l'absolu, c'est justement ce côté où on dit, mais alors on a des parents qui sont complètement sont sous pression. Moi, j'en entends plein, hein, des mamans qui sont vraiment dans l'ignorance et la négation totale de leurs besoins primaires. Quand je parle de pipi, manger, voilà, on est vraiment dans les besoins primaires. Et qui se disent, non mais moi, il faut que je sois bienveillante, faut pas que je me mette en colère. C'est formidable, mais simplement, c'est irréaliste, puisque elle n'a pas satisfait ses besoins de base, cette maman. Donc moi, c'est un petit peu, c'est ça mon cri d'alarme, un petit peu, de me dire, mais oui, allons-y à fond dans l'éducation bienveillante, mais ne nous oublions pas en chemin. Ce qu'on essaye de développer pour notre enfant, tout cet amour, toute cette empathie qu'on essaie de donner à son enfant, en disant, mais qu'est-ce qu'il voudrait être considéré comme une vraie personne, qu'on lui parle avec respect, mais respectons-nous aussi, au moins un minima. Et c'est vrai que moi, je vois des mamans du blog ou autour de moi qui sont dans des situations absolument catastrophiques et qui se traitent de mère en carton, de moins que rien,
oh là
à
ne
pas réussir à s'en sortir, alors que je lui dis mais enfin, mais depuis quand n'as-tu pas dormi? Depuis quand n'es-tu pas sorti 5 minutes? Mettons les choses dans l'ordre. Là, tu n'es plus en mesure d'être présente au mieux pour ton enfant. Tu as besoin de passer le relais, peut-être au papa, à une grand-mère, un grand-père, une voisine, je ne sais pas, une babysitter, mais là, c'est pas...
Quelqu'un dans la rue à qui on les lève. Je plaisante, bien sûr. Béatrice, on va continuer cette discussion dans un instant. On va marquer une petite pause. Nous sommes toujours avec Charlotte Ducharme, donc du blog Cool Parents Make Happy Kids. J'ai mis le lien sur le Facebook de l'émission. J'ai mis également le lien vers les vendredis Intello de Béatrice Camerer. Et dans un instant, on va entendre le témoignage d'Ève qui a découvert l'éducation positive et que ça a beaucoup aidé. Elle va nous aider. Elle va nous expliquer de quelle façon. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio,
c'est vous.
C'est vous.
Isabelle Brasse.
Comme tous les mercredis, on parle de vos enfants et dans cette première heure, on parle éducation positive. Évidemment, on était en train de le dire avec Charlotte. Finalement, ce n'est que du bon sens, cette éducation positive. Essayer de rester calme, dire ses sentiments à son enfant, etc. Mais il faut bien le reconnaître. Bon, je ne savais pas que ça s'appelait de l'éducation positive, mais j'essaye de faire ça moi-même avec mes enfants. Il faut bien reconnaître quand même qu'il y a des moments où on sort de ses gonds. Est-ce que c'est grave, Charlotte, de sortir de ses gonds?
Non, ce que je disais, c'est pas grave du tout, parce que l'enfant peut aussi comprendre, c'est la vraie vie, que de temps en temps, on pousse les gens à bout et qu'ils sortent de leurs gonds, et voilà. Mais en revanche, c'est toujours important de pas, dans ces cas-là, on peut rabaisser l'enfant et le taper dessus, entre guillemets, mais avec... Des injures qui peuvent être justes, de toute façon t'es tout le temps fait marre, t'en as rien à faire des autres, ça c'est en revanche, ça peut être très impactant pour lui.
Oui. D'accord, donc c'est essayer de mettre en valeur ses qualités et
Oui alors dans ces moments-là c'est souvent compliqué, oui. Donc c'est plus voilà, simplement exprimer et décrire la situation, décrire ce qui se passe,
oui.
C'est ce que tu as fait qui n'est pas bien, c'est ce que l'impact que ça a eu sur moi, sur les autres, mais c'est pas toi qui n'es pas bien. Toi, tu vas y arriver et tu vas pouvoir t'améliorer.
Alors pour l'instant, vos enfants sont petits, hein, puisqu'ils ont 18 mois et 3 ans. Est-ce que vous pensez qu'en grandissant, c'est facile de continuer à utiliser cette éducation positive? Je pense notamment à l'adolescence, où les enfants sont quand même un peu réfractaires au dialogue. Hein. Je pense que tous les adolescents passent par une période où, de toute façon, leurs parents n'ont rien compris. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Leurs copains sont beaucoup plus intéressants que les parents. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer ce dialogue?
Alors, j'aime pas trop parler des choses quand je ne les ai pas vécues moi-même, parce que je trouve ça toujours un peu facile. Mais je pense que, justement, dans cette période où l'enfant est contre toute autorité, l'éducation positive fait encore plus son sens. Donc voilà, de plutôt comprendre, essayer de comprendre l'enfant. Finalement, éduquer, c'est pas se faire comprendre, mais c'est plutôt essayer de comprendre, justement.
Béatrice, vous qui avez un grand enfant de 13 ans qui rentre dans l'adolescence, est-ce que vous pensez que l'éducation positive peut être d'une grande aide quand l'enfant justement rentre dans l'adolescence et je le disais, est en opposition finalement, hein, on est tous des cons, hein, nous parents.
Moi je pense qu'il y a un élément de l'éducation positive qui peut être particulièrement précieux pour les adolescents, ça tient à la conscience considération en fait qu'on accorde, qu'on peut accorder à sa parole. Parce que je pense que les adolescents, ils sont dans une période où ils se construisent un petit peu à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte, et que ce dont ils ont besoin, c'est de se rendre compte que d'abord ils sont utiles pour la communauté, pour la famille, qu'ils ont une place et qu'on leur attribue plus la même place que quand ils étaient enfants, peut-être pas encore la même que ce qu'ils auront à l'âge adulte, mais quand même plus la même place, et qu'on leur fait confiance et qu'on leur voilà, qu'on a de la considération pour eux. Et moi je pense que il y a un potentiel pour la partie communication non violente, en tout cas l'éducation positive, à vraiment accorder une vraie place à l'adolescent et à lui parler avec authenticité et sincérité, et pas être justement uniquement dans une question de rapport de force, de savoir qui va tenir la barque, parce qu'on n'est pas là pour savoir qui va gagner la guerre, on est là pour coopérer et pour faire que la famille fonctionne et tourne bien.
C'est vrai qu'on peut être confronté à des situations où on ne sait pas quoi faire. Alors vous avez des enfants plutôt petits, Charlotte. C'est vrai que moi-même, je suis mère de famille, et quand mes enfants avaient l'âge des vôtres, il y avait des moments où vraiment j'étais désemparée, parce que surtout à 18 mois, un an et demi, deux ans, c'est compliqué de communiquer avec eux. On a l'impression qu'ils comprennent rien, qu'on leur parle et qu'en fait ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Et c'est vrai qu'on se dit dans ces moments-là, mais comment mettre en place cette éducation positive? Nous sommes avec Ève également. Bonjour Ève, bienvenue sur Sud Radio.
Oui, bonjour.
Vous nous entendez depuis tout à l'heure, et
oui.
Donc je le disais, vous êtes maman de trois enfants, le troisième est petit également. Ils ont quel âge vos enfants?
Le premier a 5 ans et demi, le second 3 ans et demi, presque 4, et le quatrième a un mois et quelques jours.
Oh, tout petit bout de chou.
Voilà. Donc ça nous a valu quand même quelques difficultés, on va dire, avec le deuxième. Bon, tout le monde l'avait prévenu, mais le deuxième qui perd sa place de petit à l'annonce de l'arrivée d'un troisième, voilà. Là, on était en plein dans l'accueil des sentiments.
Donc,
discerner les sentiments, parce que même à 3 ans, ils ont encore du mal, ils sont encore dans les petits, ils ont du mal à exprimer leurs sentiments, ce qui rend la tâche un peu plus compliquée.
Enfin, vous parlez au passé, mais le bébé n'a qu'un mois, donc vous êtes encore, j'imagine, un peu dedans quand même, et ça doit être encore un peu compliqué de trouver sa place. Comment est-ce que vous avez découvert l'éducation positive ?
Alors, pareil, c'était sur le principe, mais j'avais pas encore mis ce terme d'éducation positive. J'ai vu un bouquin qui traînait chez une amie et qui avait un titre tout à fait éloquent. C'était parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent.
Ouais.
Et ça, c'est un rêve, c'est une utopie, c'est pas possible. Bon, je me suis procuré le livre que j'ai trouvé plein de bon sens. Je lisais en disant bah oui, c'est évident, bah oui, il faut faire ça, bah oui. Et en fait, quand on disait, quand il y avait les contre-exemples de dire bah oui, mais on est plutôt enclin à faire ça et à dire ça, je disais ah, bah oui, en fait, c'est ce que je leur dis, alors que c'est à l'inverse du bon sens.
C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que vous disiez et qu'est-ce qu'on vous proposait de faire?
C'est-à-dire, comme disait Charlotte tout à l'heure, un des premiers piliers, c'est parler aux enfants comme on aimerait qu'ils nous parlent. Et en même temps, quand je revoyais des scènes un petit peu de crise, leur dire « mais t'as rien compris, mais combien de fois il va falloir que je te le répète, mais j'ai l'impression d'être toujours obligée de tout faire à ta place », enfin, des choses comme ça. Et je me disais « mais si mon enfant me parlait comme ça, ou même à des amis, à des adultes, jamais il ne viendrait à l'idée de parler à un adulte comme ça ».
Donc bon, cela dit, rares sont
mon enfant comme ça.
Cela dit, Ève, rares sont les adultes qui se mettent à sortir un feutre et à peinturlurer votre entrée ou à faire déborder le bain. Ou moi, mon fils, lors de ses 1 an, il m'a jeté 7 téléphones portables dans les toilettes. J'ai pas beaucoup d'amis qui s'amuseraient à le faire, hein, je vous avouerai.
Donc alors, c'est vrai. J'ai pas été confrontée à ce genre de grosses bêtises encore. J'ai pas été confrontée à ça. Mais voilà, ne serait-ce que d'être obligée de répéter deux ou trois fois quelque chose à un enfant, tout de suite, on part dans l'exagération, en fait. Sous prétexte que c'est un enfant, on exagère.
Oui, mais encore une fois, c'est vrai qu'ils ont tendance aussi à nous pousser à bout. Hein. Bon, moi, sur les deux, j'en ai un qui, petit, était vraiment un vrai dur. Hein. D'ailleurs, il le disait lui-même, il disait « Ouais, moi, je suis la terreur des bacs à sable
!»
Et donc, il a vraiment tout fait à tel point qu'un jour, j'ai honte de le dire, je le raconte à l'antenne, mais j'ai honte. Un jour, on était dans un supermarché, il était en train de tout mettre en l'air, il s'était sauvé du caddie, j'avais pas vu. Vous savez, les caddies avec les petites voitures en dessous, là. J'avais pas vu qu'il était sorti de la petite voiture, et il était en train de tout mettre mètres en l'air et tout à coup je tourne la tête, il était au rayon fromagerie, il était en train de prendre les fromages et la fromagère hystérique regarde, fait, il est à qui cet enfant? Et moi je suis passée devant, je vais, je sais pas, je le connais pas. C'est vrai qu'on, je comprends les mères, c'est vrai qu'en théorie on aimerait tellement garder son sang froid, être parfaite, etc. Mais c'est vrai que je comprends tellement les mères.
Mais qui... alors, c'est pas, moi mon attente est là où je pense que ça révolutionnait. J'espérais pas être parfaite, ça, il y a longtemps. Depuis que j'ai le premier, je sais bien que c'est pas possible. Et oui. Alors, comme disait Béatrice tout à l'heure, c'est vrai qu'on se met, en tant que mère, on se met beaucoup la pression parce qu'il faudrait qu'on soit une femme active, parfaite, une mère épanouie, une femme, encore plus une femme, une épouse épanouie. Enfin, faudrait qu'on soit géniale sur tous les plans. Il y a longtemps que je me suis dit que c'était pas possible et que j'ai forcément des faiblesses. Mais c'est que au niveau des relations avec les enfants, je me rendais compte qu'effectivement on était souvent dans un conflit et que quand je perdais pied, eh ben je me mettais à hurler et quand je revivais la scène après, je me disais mais enfin j'ai été une vraie sorcière, une vraie mégère et limite je pense que j'ai dû traumatiser les enfants tellement moi je suis partie dans l'excès.
Et bon, Eve, je crois que toutes les auditrices qui nous écoutent se retrouvent en vous,
hein. Parce,
oui, je crois qu'on l'a toutes vécu et vraiment, on ne peut pas culpabiliser soi-même de sortir de ses gonds. Et effectivement, ce qu'on va continuer à voir.
On peut se dire qu'à un moment, il doit y avoir une solution possible. Il doit y avoir un moyen de tempérer les choses. Et du coup, parallèlement au livre, j'ai découvert, parce que moi, les ateliers de communication bienveillante, etc., moi qui suis en province, j'imaginais que ça n'existait qu'à Paris et en banlieue parisienne. Et j'ai découvert que dans ma petite ville, il y avait une association qui offrait ce genre d'atelier. Donc je me suis dépêchée de m'inscrire. Et pour le coup, là où je me reconnais pas trop dans ce que dit Béatrice, c'est que dans les ateliers, alors dans les bouquins c'est peut-être autre chose quand on se contente des bouquins, dans les ateliers, l'animatrice de l'atelier n'est pas du tout culpabilisante. Et justement, elle nous dit voilà, on fait les ateliers, je vous donne des outils, rassurez-vous. Les outils, déjà, il faut soi-même être dans de bonnes dispositions. Il ne faut pas avoir une journée où on en a eu plein les pattes, etc. Parce que nous-mêmes, quand on est fatigué, on ne pense pas toujours à mobiliser les outils. Et surtout, les outils, ça peut marcher avec l'un de vos enfants, ça peut ne pas marcher avec l'autre. Ça peut marcher un jour avec un enfant et dès le lendemain, ne plus marcher avec le même enfant.
Donc, oui, puis il y a des enfants qui sont...
Vous mettre des cartes en main.
Il y a des enfants qui sont plus difficiles que d'autres aussi. Eve, vous restez avec nous, on va continuer cette discussion dans un instant. Charlotte Ducharme également et Béatrice Kammerer aussi, vous restez avec nous. On continue cette discussion sur l'éducation positive. Et bien sûr, vous pouvez venir nous rejoindre en direct sur Sud Radio 0 826 300 300. Peut-être êtes-vous une maman en difficulté avec vos enfants, petits ou moins petits. Et avez-vous envie de trouver des clés? Bien, n'hésitez pas à nous appeler au 0 826 300 300.
Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse.
Hé hé, comme tous les mercredis, on parle de vos enfants et on parle éducation positive. Mais comme j'aurais aimé connaître cette méthode quand mes enfants étaient plus jeunes, j'étais en train de raconter à Charlotte tous mes déboires avec mes enfants petits, surtout Paul, hein, si tu m'écoutes, Paul, tu m'en as fait baver, tu le sais. Maintenant, c'est un amour. Alors déjà, je voudrais dire à tous les parents que les enfants qui sont terribles ne le restent pas forcément toute leur vie et qu'arrive un âge où ils deviennent beaucoup plus cool. On m'avait dit ça avec mon fils quand il avait 2-3 ans, j'étais dans un square et il y a une vieille dame qui regardait mon fils et un jour elle vient me voir et elle me dit « Vous savez madame, mon fils il était pareil quand il avait le même âge. Aujourd'hui il a 40 ans, il est médecin, c'est un amour, il adore sa mère, il s'occupe très bien de moi, etc. etc. » Et c'est vrai Charlotte, les enfants ne restent pas des enfants terribles toute leur vie.
Non, absolument. Et puis voilà, ça sert à rien non plus d'être constamment dans le conflit parce qu'on se fatigue, on se fatigue tous et finalement ça apporte pas tant de choses que ça.
C'est vrai. Alors on était avec Eve et avec Béatrice également. Alors Béatrice, vous avez entendu ce que disait Eve, vous avec vos 5 enfants, est-ce que ça vous est arrivé aussi de sortir de vos gonds, de ne plus savoir quoi faire?
Alors moi je suis pas d'un naturel très colérique, je suis pas un bon exemple sur le sujet, Parce que moi, quand il y avait des choses qui, comment dire, quand ça débordait trop, au contraire, j'avais tendance à me replier sur moi et plutôt d'appeler mon mari à l'aide pour régler les conflits. Donc j'ai pas la réaction type, on va dire, de ce côté-là. Mais c'est pas forcément une bonne chose, parce que je pense que savoir exprimer sa colère justement sainement, ça peut être une bonne chose. Je dis pas en hurlant justement, mais voilà, dire que ça va pas et qu'à un moment donné, on a dépassé les gonds. Après, moi, j'ai aussi une vision qui est pas forcément, pas forcément négative des enfants terribles. Enfin, vous avez beaucoup parlé ce mot, hein, je le reprends du coup, parce que je me dis qu'en fait, ils sont pas du tout dans la même logique que nous. C'est-à-dire qu'un enfant qui, au parc, va à droite, à gauche, monte, descend, saute, court, et que nous, on pèlit, on blémit, on lui dit, mais arrête de faire ça, ou mais pourquoi t'as renversé de l'eau, pourquoi t'as rempli ce bain, que ça a tout débordé. En fait, eux, ils sont pas du tout dans cette logique-là, ils sont dans une logique de découverte, et je pense que même si ça résout pas les problèmes des parents, se le redire de temps en temps, ça peut faire du bien aussi.
Alors ça, vous avez complètement raison, Béatrice, et malheureusement, moi, avec mon fils aîné, je l'ai compris un peu tard, j'aurais bien aimé le comprendre quand il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que toutes les bêtises qu'il faisait, et vraiment, vous avez raison, c'était que de la curiosité, de la découverte, finalement.
C'était pas pour provoquer ses
parents. C'était pas pour m'embêter, c'était pas pour faire des bêtises, c'était juste qu'il était curieux. Mais c'est vrai que quand on n'y connaît rien en enfant, on se dit, mais pourquoi il fait ça?
Il me provoque,
mais pourquoi? Mais vous avez, là où je vous rejoins, Béatrice, c'est vrai que comprendre ce qui se passe dans la tête d'un enfant, c'est aussi très important.
Complètement. Et d'ailleurs, Ève parlait d'empathie. L'empathie avec son enfant, c'est justement une des baguettes magiques, on va dire, où souvent l'enfant, il est dans toutes ses émotions et il n'arrive pas à les maîtriser. Et nous, si on met des mots sur ses émotions, si on dit, là, en fait, tu as peur ou tu es en colère, et par exemple, j'étais avec la maîtresse là, l'autre jour, ma fille ne voulait pas rendre un bout de papier, un dessin qu'avait offert une autre fille. J'aurais dû lui dire, mais en fait, tu ne veux pas rendre ce dessin parce que toi, tu aurais aimé faire le même à la maîtresse. Mmh. Et en lui disant ce qu'elle ressent, ça lui permet déjà d'avoir un premier pas vers maîtriser ses émotions en se comprenant soi-même.
Oui, mais encore faut-il être capable de détecter...
Les émotions de ses enfants, oui.
Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de comprendre que si mon fils ne veut pas rendre le dessin, c'est parce qu'il aurait aimé faire le même dessin à la maîtresse.
C'est sûr, ce n'est pas évident de comprendre.
Là, il faut un dictionnaire bébé adulte, hein, je pense, pour comprendre ça. Ève, est-ce que ce dictionnaire bébé adulte, justement, dans ces ateliers dont vous nous parliez, vous en avez eu au moins un petit échantillon et aujourd'hui vous avez l'impression de mieux comprendre vos enfants ?
Oui, j'en ai eu un échantillon et puis du coup, comme j'ai commencé les ateliers avant les vacances d'été, c'est vrai que mon mari qui était très sceptique au début puisque lui prenait cette communication positive comme justement du laxisme. Après que j'ai un petit peu débriefé et en plus il est chef d'entreprise donc au niveau management et tout, il a compris que ça se rapprochait un petit peu du management d'enfants. Et on a réussi à mettre en place...
J'aime bien, excusez-moi Eve, mais j'aime bien ce terme de management d'enfants. Bon allez, on va manager les enfants
c'est
là.
Ça, c'est pas laisser l'enfant faire ce qu'il veut, c'est essayer de le comprendre et avec pédagogie l'amener là où on veut. Et du coup, réussir à lui faire faire quand même ce qu'on veut, ce qu'on voulait au départ. Donc c'est vrai que ça s'apparente à du management quand même.
C'est un vrai boulot, hein, en tout cas.
Oui, c'est un vrai boulot. Et c'est vrai que du coup, cet été, par rapport à différentes situations qu'on a connues, commencer le dialogue avec l'enfant par voilà, je comprends, tu dois être dans cet état-là. Tu dois être fatigué, tu dois être en colère, tu dois être comme ça. L'enfant, d'un seul coup, il se sent entendu, il se sent compris. Et du coup, ça permet d'amorcer un dialogue, ça permet de désamorcer une situation de crise. Ça a permis de pacifier beaucoup de choses.
Charlotte, cette éducation positive, c'est une éducation sans punition? On ne punit jamais les enfants?
Alors, justement, le mot punition est assez... c'est important de le définir. En fait, on entend, entre guillemets, l'éducation positive est un peu contre les punitions qui consistent à faire payer à l'enfant sa faute ou à lui donner une sanction suffisamment forte pour que le dissuader de recommencer.
Bah, chez les adultes, ça se passe comme ça, hein, en tout cas.
Oui, justement,
si vous faites une bêtise dans la société, vous allez avoir une amende, vous allez passer passer devant un juge, vous allez aller en prison. Enfin,
absolument.
C'est comme ça
et
que le monde
la
fonctionne.
La prison est justement fortement remise en cause parce que toutes les sanctions, le taux de récidive est énorme sur les petites sanctions. Mmh. Et justement, on est en train de se dire, bah, finalement, les prisonniers qui sont accompagnés, ça marche mille fois mieux que ceux qui ont juste de la prison. Et quand ouais. on compare ceux pour la même peine qui ont eu beaucoup de prison et d'autres qui ont eu moins, le taux de récidive est le même.
Donc, ouais.
Justement, on remet tout ça en cause. Et l'objectif...
Mais là, ça va loin, je trouve, parce que ça veut dire que vous remettez auprès des enfants le fonctionnement de toute une société, finalement.
Non,
puisque
parce
là,
que...
bah, comment faire ouais. comprendre à un enfant quand il grandit, si vous ne le punissez jamais quand il est... excusez-moi, hein, je me
oui,
fais un peu l'avocat
sûr,
du diable.
Hein,
mais si vous ne le punissez jamais quand il est petit, comment lui faire comprendre quand il est plus grand que s'il pique une mobilette, il va aller en tôle?
Oui, alors déjà, il ne va pas piquer une mobilette quand il sera plus grand, non pas parce qu'il a peur d'aller en tôle, mais parce qu'il sait que ce n'est pas bien.
Ah oui, mais ça, c'est dans un monde idéal.
Dans un monde idéal. Mais je vais vous prendre un exemple parce qu'on a eu une situation assez intéressante qui c'est un problème qu'on a eu deux fois avec notre fille et on a réagi une fois en la punissant et l'autre fois sans la punir.
Ouais.
Elle avait fait mal à son frère et mon mari a tenté cette fois de lui dire mais ça va pas, non, qu'est-ce que t'as fait, tu dis pardon à ton frère. Je dis bah non, je veux pas dire pardon. Bon bah tu vas au coin. On l'a mis au coin, elle pleurait. Tu sortiras du coin quand tu auras dit pardon. Elle a dit pardon. Et voilà. Donc, et la deuxième situation, où de même, elle avait fait mal à son frère, et cette fois, on a plutôt opté pour consoler son frère et dire « Pardon, tu sais, je pense qu'elle n'a pas fait exprès, je suis désolée, je suis sûre qu'elle ne voulait pas te faire mal. » Et là, notre fille est venue vers lui et lui dire « Pardon, mon petit frère, tiens, je vais te faire un câlin, et puis viens, tu peux jouer avec nous. » Bon, alors, bien sûr, tout le monde n'a pas le même tempérament que nos enfants, etc.
Ouais.
Mais dans la première situation, quand j'ai débriefé avec elle, quand j'ai dit « Mais pourquoi est-ce que tu as été punie ?» Ce dont elle m'a parlé tout de suite, c'est « Papa, il m'a grondée, je suis triste, papa, il m'a grondée. » J'ai dit « Mais tu sais pourquoi il t'a punie ?» Elle dit « Je ne sais pas. » En fait, le fait d'être punie, elle a exprimé tellement de sentiments, de tristesse d'être punie, qu'elle en a complètement oublié la cause. Ça ne l'a pas rendue meilleure.
Ouais.
Elle n'a même pas eu envie de dire pardon à son frère, parce que son frère était l'objet, en plus, de
ouais.
la raison pour laquelle elle s'est grondée. Alors que quand on lui a montré l'exemple et qu'on l'a amenée à trouver elle-même comment réparer sa faute, déjà, on lui a laissé le temps de voir que son frère pleurait. Alors que quand on tombe dessus, elle n'a même pas le temps de voir ce qui s'est passé.
Ouais.
Elle a compris. Elle a compris, elle a vu qu'elle avait fait mal et elle a essayé de trouver d'elle-même une solution.
Mmh.
Et je pense qu'elle en a plus appris sur la deuxième que sur la première. Ça, c'est un exemple hein, parmi mille d'autres, mais voilà.
Bien sûr. Alors, Béatrice, c'est vrai, quand on entend ça, ça fait réfléchir parce qu'on se dit que là, oulala, c'est toute la société carrément qu'il faut repenser, quoi.
C'est comme elles l'ont très bien dit, hein, c'est des réflexions qui effectivement sont en train d'avoir lieu. En fait, ça s'appelle la justice restaurative. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va être dans une justice punitive ou une justice restaurative. La justice restaurative, c'est dire comment est-ce qu'on va pouvoir réparer, comment est-ce que la victime va pas simplement, je sais pas si on lui a volé sa valise, on va pas simplement lui rendre sa valise, mais on va s'intéresser à ce qu'elle a pu avoir comme sentiment désagréable et on va faire en sorte que son état soit restauré. Et ça, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'en fait, là, il y a très très peu de temps, il y a une étude qui a montré que les enfants sont particulièrement performants dans ce type de justice-là. C'est-à-dire que dès 3 ans, les chercheurs ont montré qu'ils ont naturellement des comportements de justice restaurative et que c'est uniquement après qu'ils commencent à se poser à la question de la punition. D'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure l'école et l'influence des adultes n'a pas un impact là-dessus. Mais finalement, promouvoir ça, c'est aussi promouvoir des capacités naturelles que les enfants ont à l'empathie, à comprendre à imaginer ce que l'autre a pu vivre et du coup à être dans le soin à l'autre et à la victime. Donc moi je trouve ça assez amusant finalement que ce soit les enfants qui nous poussent à réfléchir. Voilà quelle
ouais.
meilleure société on pourrait construire.
C'est souvent le cas d'ailleurs. Ève, qu'est-ce que ça a changé en quelques mots, cette éducation positive, dans vos rapports avec vos enfants?
C'est moins conflictuel. Oui. C'est moins conflictuel. On continue d'avoir évidemment certaines crises, hein, notamment donc, comme on disait en début avec le deuxième qui cherche sa place à l'arrivée de son petit frère, puisqu'il devient grand frère mais il est toujours petit frère. Bon, il est très sage avec son petit frère, il est violent avec son grand frère. Et là, je suis pas comme Charlotte, j'ai pas encore réussi à trouver.
la solution.
Réaction, et puis ça dépend des enfants.
Bonne réaction, parce que vraiment, quand l'un de ses enfants fait du mal à l'autre de ses enfants, c'est très dur. J'ai essayé de leur expliquer, pour le coup, sans me fâcher, mais j'ai essayé de leur expliquer l'amour qu'on pouvait avoir envers chacun de ses enfants et le fait que l'un qui fait du mal à l'autre, c'est vraiment insupportable. Mais pour l'instant, ils continuent. Alors,
Ils sont petits aussi pour l'instant. Ils sont très petits encore, vos enfants. Le plus grand a 5 ans. Donc, c'est vrai que c'est un chemin. Mais en tout cas, Eve, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre histoire. Parce que je pense que c'est vraiment une histoire dans laquelle beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices peuvent se retrouver. Merci, Charlotte.
Merci à vous.
Donc, je rappelle votre blog Cool Parents Make Happy Kids. On a mis le lien sur le Facebook de l'émission Sud Radio, c'est vous. Et merci mille fois. Béatrice Camerer. On a mis également le lien vers les Vendredis Intello, qui est donc une association de diffusion et de connaissances dans les domaines de la parentalité et de l'éducation. On se retrouve dans un instant. On va parler des familles nombreuses. Cette fois-ci, on continue à parler des enfants. Nous sommes mercredi. À tout de suite sur Sud Radio.